Il est complètement fou, ce mec.
Alors, promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Complètement à l'Ouest sur Radio Immo, l'émission qui vous parle de tout sauf d'immobilier. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler emploi avec évidemment celui qui m'accompagne à chaque fois. Bonjour Philippe Boyer.
Bonjour Johanna.
Vous êtes en forme ?
Parfaitement en forme.
Pour attaquer cette nouvelle année ?
Effectivement, on va parler emploi, on va parler travail. Alors c'est un fait, la pandémie a transformé les comportements des salariés. Il y a quelques semaines, l'hebdomadaire Le Point titrait « Après le Covid, qui voudra encore travailler ?» Alors que le télétravail s'installe durablement dans les organisations, alors que les nouvelles générations n'ont plus envie de travailler de la même façon que leurs parents, alors que se répand le phénomène de grande démission, avec pour la seule année 2021, plus de 40 millions d'Américains qui ont démissionné de leur emploi pour changer de ville, de vie ou de secteur d'activité. Bref, tous ces phénomènes brouillent nos repères sur ce qu'est et ce que sera le travail dans les prochaines décennies. Allons-nous vers la fin du travail, comme certains le prophétisent ? Verrons-nous la journée de 3 ou 5 heures ? Faut-il se préparer à travailler différemment, c'est-à-dire selon d'autres modes collaboratifs, tout en intégrant de nouvelles formes de partage du temps, des savoirs et des outils ? Vous l'avez compris, le travail, les emplois de demain, l'impact des nouvelles technologies, ce sont tous ces thèmes dont nous allons aujourd'hui débattre au cœur de cette émission de Complètement à l'Est, à l'Ouest. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'Est, à l'Ouest, pardon, décidément, Complètement à l'Ouest.
Complètement à l'Ouest, Philippe Boyer.
Bonjour Isabelle Rouen.
Bonjour Philippe.
C'est un grand plaisir de vous accueillir à ce micro pour cette première émission de Complètement à l'Ouest, celle en tout cas du mois de février. Isabelle Rouen, nous allons aujourd'hui parler travail, emploi. Ça tombe bien car vous êtes une spécialiste des RH, vous dirigez Colibri Talent, cabinet de recrutement et d'outplacement, et vous êtes également la cofondatrice et la présidente de l'Observatoire des métiers du futur, qui est un think tank qui vise à développer l'employabilité. Je précise que vous connaissez bien aussi le monde de la tech, puisque vous êtes au conseil d'administration de la Villa Numéris, un autre think tank, celui-là européen, est tourné vers les sujets numériques. Mais ce qui motive aujourd'hui votre présence à ce micro, c'est la parution de votre ouvrage « Emploi 4.0, quel métier pour réussir la transformation technologique » paru aux éditions Atland dans la collection « Coup de gueule et engagement, tout un programme ». Vous le savez peut-être, chacune de nos émissions commence par un court son en référence à notre sujet. Et pour celui-ci, nous allons faire un petit saut dans le temps pour écouter des propos qui, malheureusement, n'ont pas trop vieilli. On l'écoute.
Maintenant, je suis grand, je suis chômeur. J'hésitais entre ouvrier chômeur et patron chômeur, et puis finalement, j'ai pris ouvrier. Eh ben, je suis content parce qu'il y a plus de choix. On est peinard, vous voyez, pour choisir, on a... Ah oui, il y a du choix, hein, c'est bien. Ah ouais, enfoiré, ouais. Moi, j'ai été remplacé par une machine, avec toute l'équipe de mecs qu'on était. Ah, une machine super, hein. Elle fait tout le travail à notre place, aussi bien ou moins aussi bien que nous, hein. Sinon mieux. Et puis alors, la machine, ça n'a pas besoin de salaire, ça n'a pas besoin de repos, ça n'a pas besoin de vacances, c'est jamais malade, et pire, ça n'a même pas besoin de travail. Parce que tout le monde gueule, on dit, ouais, il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail. C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait. Alors moi, ça fait 4 ans que je suis chômeur. Alors je suis rentré à la maison, là, et puis ma femme m'a dit, tiens, tu vois, si j'avais eu du lard, je t'aurais fait une omelette au lard. Malheureusement, j'ai pas d'œuf.
Alors, ce sketch de Coluche, Le chômeur, a été écrit il y a près de 40 ans et les termes, eux, n'ont presque pas pris une ride, notamment cette réflexion sur les machines qui n'ont pas besoin de salaire. Bref, on voit que le travail est et reste un sujet de préoccupation majeure dans nos sociétés, c'est bien normal. Isabelle Rouen, première question sur ce sujet de l'emploi 4.0 qui est au centre de votre livre. D'abord, nous dire ce que vous entendez par ce titre, cette expression, emploi 4.0, et puis préciser en quoi la technologie bouleverse de plus en plus nos emplois.
Alors, ce que j'entends par emploi 4.0, c'est lié au fait qu'il y a eu plusieurs révolutions sur les métiers et sur le travail. Et à chaque fois, c'était basé sur une rupture technologique. Il y a eu une première révolution qui est arrivée au début du XVIIIe siècle avec la machine à vapeur, qui a enclenché, on va dire, l'exode rural et début de l'industrialisation. Une deuxième révolution au début du XXe siècle avec l'électrification, qui va créer tout ce qui est travail à la chaîne. Troisième révolution, celle-ci beaucoup plus proche de nous, contemporaine de ce fameux sketch de Coluche, c'est la révolution de la micro-informatique qui va déclencher la tertiarisation de l'économie et sa mondialisation également. Et enfin, la quatrième, ces emplois 4.0, bah, c'est la révolution de l'IA, donc que moi je date plutôt, on va dire, de 2010 sur son impact sur les métiers et sur le travail. Et c'est ça qui aujourd'hui crée une accélération très importante de métiers et d'emplois dans la technologie, mais pas que. Parce que plus on met de la technologie, plus on met des process, plus on met des robots et plus on a besoin de remettre de l'humain. C'est pour ça que je trouve que l'extrait sonore de Coluche est très intéressant parce qu'effectivement, il met le doigt sur une peur fondamentale qu'ont les gens et qui est une peur qui existait il y a 40 ans, qui existe toujours, que les robots volent le travail. 72% des Européens sont convaincus que les robots peuvent voler leur travail.
Les robots et l'IA.
Et en fait, moi, je me bats un peu contre cette idée-là. En tout cas, je veux la battre en brèche parce que ce qui change fondamentalement le travail, c'est l'automatisation. La moitié des heures travaillées en France est potentiellement automatisable en 2022. Mais ça ne veut pas dire que la moitié des emplois vont disparaître. Bien au contraire. Et c'est sur ce hiatus-là, en fait, que j'ai construit une grande partie du livre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que plus le digital avance et plus on crée des emplois. Vous avez, d'ici 2025, 15 millions d'emplois qui vont être créés du fait de la digitalisation et de l'automatisation. Et en parallèle, 6 millions de destructions. C'est Eurostat qui le dit, qui est l'institut... statistiques au niveau de l'Europe. Le bilan, il est largement positif. Et la deuxième chose aussi qui fait que c'est positif, c'est qu'une tâche qu'on automatise, c'est toujours une tâche qui est répétitive et c'est souvent une tâche qui est pénible. Donc moi, je trouve ça plutôt chouette qu'on la délègue aux machines. Ce qui est important, c'est de protéger les gens. Et je pense que c'est ça qui souligne Coluche dans son texte et dans son sketch. C'est les gens qu'il faut protéger, pas forcément les emplois. Si le métier de liftier disparaît, c'est pas très grave. S'il y a moins de maréchaux ferrants, c'est pas très grave. S'il y a plus de poinçonneurs au lilas, c'est pas très grave parce qu'on crée plus d'emplois qu'on en détruit.
Dans notre émission du mois dernier, nous avions reçu Jean-Laurent Casselli, qui est co-auteur d'un livre qui s'appelle « La France sous nos yeux » et qui expliquait que l'accélération de la digitalisation consécutive à la généralisation des smartphones a permis ce qu'il appelle les nouveaux domestiques 2.0. Là encore, on retrouve cette expression, qui sont notamment ces livreurs à vélo qu'on trouve maintenant partout dans nos villes. Quel est, vous, votre regard de professionnel des relations du travail sur ce phénomène de plateformisation qui a fait apparaître ces nouveaux tâcherons? Est-ce que, selon vous, ils sont la nouvelle classe ouvrière de ce 21e siècle?
C'est probable qu'ils soient la nouvelle classe ouvrière et je pense que c'est pas très bien ce qu'ont fait certaines plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une économie à la tâche pour permettre à des gens qui le souhaitent de travailler quand ça les arrange en finançant leurs études ou en faisant autre chose à côté, c'est très bien. De rendre des gens dépendants d'un algorithme pour travailler là où c'est le pic pour l'entreprise en leur laissant ni couverture sociale ni droit à l'assurance chômage, c'est un vrai, vrai, vrai problème. Et c'est vrai qu'il y a un décalage du rapport de force entre les plateformes et les livreurs. D'ailleurs, ils n'ont même plus de prénom. Ils vous appellent, c'est votre livreur Amazon. Moi, ça me pose un vrai sujet. Je voudrais souligner à votre antenne l'initiative d'une boîte qui s'appelle Feedme, qui a été fondée par un garçon formidable qui s'appelle Abdelhaim Taoufik Alla, dans le nord de la France. Il était à l'époque étudiant, bac plus 5 en génie civil, immigré, donc pas français, donc pas avec le droit de travailler plus de 20 heures. Et donc, il s'est retrouvé livreur pour payer ses études. Il s'est bagarré contre ces fameuses plateformes pour justement avoir des droits. Il n'a pas réussi à en avoir. Il a monté une boîte de livraison éthique. Ces livreurs sont salariés. Ces livreurs sont ceux qui vont le matin démarcher le restaurant et rentrer le contrat avec lui. Le midi, installer la tablette pour que le restaurateur puisse gérer les commandes. Et le soir, ils pédalent. Et ces gens-là ont justement, du coup, ces livreurs qui l'emploient, ont une couverture sociale, ont des vacances, ont un vrai CDI. Donc, il y a tout à fait moyen d'imaginer des vrais modèles qui recréent des emplois qui soient autre chose que ces emplois précaires ça s'entend peut-être, me hérisse un peu le poil ou en tout cas pose question dans nos sociétés.
Alors, sur le sujet du travail, on a vu là pendant les mois de pandémie que nous avons traversé, on a vu fleurir des centaines de chroniques, d'articles en tout genre, qui vantaient l'indispensable réinvention du travail. Parmi cette avalanche de papiers, beaucoup finalement se recoupaient en indiquant qu'il y aurait deux urgences à faire deux choses si l'on veut réinventer le travail ou du moins les relations du travail. Première série d'articles qui, certains en matière de il fallait structurer des moments collectifs, des réunions de brainstorming, la créativité, bref, repenser, réinventer les façons de travailler ensemble et les lieux qui vont avec. Et le deuxième conseil généralement qu'on trouvait dans ces articles, c'était clarifier les enjeux de cette nouvelle forme de travail. Quel est votre regard, vous, sur cette réinvention du travail? Est-ce que ces deux conseils, structurer des moments collectifs plus clarifier les enjeux, sont selon vous les priorités à faire en cette période de travail hybride que nous connaissons?
Alors, clarifier les enjeux, c'est une certitude. Moi, je crois beaucoup à l'entreprise à mission et je crois beaucoup au fait qu'il faille arriver à aligner chaque équipe et chaque individu sur des objectifs individuels puis collectifs pour servir l'objectif global et final de l'entreprise. Ça, c'est indispensable. Réinstaurer du collectif, c'est important. Moi, je ne crois pas beaucoup au collectif à distance. Le télétravail est une réalité et on a vu que ça pouvait fonctionner. Mais je pense que c'est très important d'avoir aussi des moments de collectif en présentiel, en tout cas quelque chose qui crée de l'adhérence et de l'adhésion à la culture d'entreprise, dans le respect des gestes barrières, dans le respect de tout un tas de choses. Je ne sais pas quand cette émission sera diffusée. On sera par confiné à ce moment-là.
Bientôt.
Mais voilà, donc je pense que c'est important, effectivement, d'avoir des rites collectifs. À mon avis, ils ne doivent pas tous se passer derrière un écran.
Votre livre est à la fois une réflexion sur la façon dont nous devons nous adapter pour surfer sur la vague du numérique, mais aussi une boîte à outils concrète, puisqu'on trouve des fiches sur ces emplois 4.0 qui vont se développer à environ horizon 5 ans. Vous citez plutôt l'émergence de futurs métiers tels que stratège de l'automatisation, animateur de marketplace, coach du changement, facilitateur de tiers-lieux, conseiller en orientation numérique ou encore ambassadeur de la souveraineté numérique. D'où viennent ces métiers? Alors, je crois reconnaître quelques expressions un peu à la mode. Comment l'école doit-elle se transformer pour finalement former à ces nouveaux métiers?
Alors, effectivement, j'écris des fiches métiers parce que mon vrai métier, c'est pas autrice de livres.
Ah bon?
Mon vrai métier, c'est recruteuse. Je dirige un cabinet de recrutement, donc je passe effectivement un peu de temps dans ma vie professionnelle à écrire des fiches de poste. Et c'est un peu ça l'idée de mes deux bouquins, en fait. C'était de me dire, en fait, du coup, comment j'imagine des postes du futur et comment j'écris la fiche métier. Et en fait, moi, je les imagine pas, ces métiers. Je suis pas futurologue. Tout ceci est basé sur la rencontre. Donc, à chaque fois, derrière chaque livre, il y a une trentaine d'interviews avec des spécialistes, des start-upeurs, des chefs d'entreprise,
on
des chercheuses,
les,
des chercheurs.
Les
voilà,
donc
des gens vraiment très, des femmes et des hommes très différents. Donc c'est ça qui effectivement m'a amené à imaginer tous ces métiers. Alors je vais peut-être pas tous vous les décrire là parce que sinon on va exploser le temps de l'émission. Et du coup, je vais rebondir sur votre deuxième question, c'est comment l'école doit s'adapter. Le vrai constat, c'est qu'aujourd'hui, l'école, en tout cas en formation initiale, dans 85% des cas, elle prépare des élèves à des métiers qui n'existent pas encore en 2030, en fait. Donc pour ceux qui aujourd'hui vont à l'école, le métier qu'ils exerceront en 2030, il n'a pas encore été inventé. Ce qui veut dire qu'il y a une vraie nécessité d'apprendre aujourd'hui à nos jeunes à se déployer en agilité, à être extrêmement curieux, à se renseigner sur toutes les filières qui sont possibles et surtout à se dire qu'ils ne feront pas le même métier toute leur vie. Donc l'idée, c'est pas de se dire il faut faire du code à tous les étages parce que tout le monde n'est pas né pour être codeuse ou codeur ou ambassadeur de la souveraineté numérique. Il y a aussi plein de métiers non numériques qui vont perdurer dans cette nouvelle économie. Mais à mon avis, l'école doit impérativement pousser à l'agilité des parcours, à l'agilité des profils et justement à se mettre dans un esprit moins rigide. À mon avis, encore un peu de travail. Mais les maths vont redevenir obligatoires, donc tout va bien.
J'ai une question par rapport à ça, une question presque philosophique. Comment éviter que notre société se divise finalement en deux catégories, entre des technos largués et puis des technophiles qui, eux, feront les nouveaux métiers que vous citez?
Alors je pense que ce n'est pas une question philosophique, c'est une question éthique et c'est une question urgente parce que la société, elle est déjà divisée. On a aujourd'hui 13 millions de personnes qui souffrent d'exclusion numérique. 13 millions de personnes. En l'occurrence, vous en avez 7 millions qui sont déconnectés parce que soit dans des zones blanches, soit n'ayant pas les moyens de s'acheter le matériel qui va bien et de s'équiper. Et le reste, les 6 millions restants, ce sont des gens qui sont technolargués, comme vous le dites. En fait, la définition exacte de la fracture numérique, c'est je ne suis pas capable d'attacher ou de détacher une pièce jointe d'un email.
Et ça, quel que soit l'âge, peu importe.
Quel que soit l'âge. C'est pas un sujet d'âge. Vous pouvez avoir tout à fait ça sur des gens qui sont très jeunes, qui savent parfaitement surfer sur un smartphone, mais qui derrière vont pas être à l'aise avec les outils numériques. Et là, du coup, c'est vraiment des sujets d'inclusion numérique. Aujourd'hui, ils sont portés plutôt par des associations et quelques grandes entreprises. Donc, il y a le réseau Emmaüs Connect qui, aujourd'hui, forme les gens qui lui sont envoyés, notamment par la Poste. Donc, on détecte les gens qui sont en difficulté pour aller s'acheter leur carnet de timbres sur le robot de la Poste et on les envoie chez Emmaüs Connect. Vous avez aussi des entreprises qui forment leurs collaboratrices et collaborateurs parce qu'on ne va pas se mentir, vous avez parfois des collaborateurs qui ne sont pas à l'aise avec le digital, qui sont les plus fragiles quant à leur métier. Je pense aux autres hôtes et hôtesses de caisse. Vous avez des facteurs, vous avez des gens comme ça qui vont être assez peu à l'aise avec les outils numériques, qui peuvent être menacés par l'automatisation. Et c'est les premiers, en fait, qu'il faut absolument former, justement, pour qu'on n'ait pas cette société à deux vitesses qui perdure et qui s'accentue, parce que ça pose un vrai problème. Le numérique est le premier secteur qui recrute en France.
Bien sûr.
C'est 80 000 postes non pourvus chaque année. Donc, si on laisse de côté les gens qui sont techno-largués, comme vous dites, on va avoir un vrai souci à terme.
Merci Isabelle Rouen pour ces premières explications. On va marquer une courte pause musicale avec le titre que vous avez choisi. Un titre tout en douceur. Il s'agit de Cocoon qui interprète le titre Choupi. Avant qu'on l'écoute, un petit mot sur ce choix.
Alors j'aime beaucoup cette chanson. Déjà j'aime beaucoup le groupe Cocoon qui est un groupe français. Et je trouvais que c'était intéressant de mettre de la French Touch à l'honneur. J'ai un petit sujet de souveraineté même musicale. Bon, après ils chantent en anglais. Et puis c'est une chanson qui est pleine de joie, de bonne humeur et de gaieté. Ça me semblait...
C'est vrai qu'elle fait du bien.
Sympa, voilà. Ça contrebalance le sketch de Coluche qui était drôle mais un peu anxiogène.
Allez, on l'écoute et on revient juste après dans Complètement à l'Ouest. De retour dans Complètement à l'Ouest avec notre invitée du mois, Isabelle Rouen, et évidemment Philippe Boyer.
Alors, dans votre livre, vous faites une grande place au sujet des compétences de savoir-être, et vous dites que pour ces futurs emplois 4.0, ces compétences de savoir-être seront décisives. Alors, plusieurs questions en une. Que recouvrent ces compétences de savoir-être, en particulier pour demain? Et pourquoi seront-elles si cruciales à avoir, puis à conserver, surtout à conserver, tout au long de son parcours professionnel?
Alors, les compétences de savoir-être, les fameuses soft skills, c'est des compétences humaines, en fait, et profondément humaines. Et elles sont justement indispensables parce que la machine ne les aura jamais. Alors, pour donner des exemples, c'est l'agilité, c'est la capacité d'apprendre à apprendre, c'est la capacité à fonctionner en équipe, c'est le leadership. Et ces compétences, elles sont clés parce qu'elles ont le bon goût d'être pérennes. En fait, aujourd'hui, avec les transformations du travail, vous avez deux types de compétences, hein, les compétences techniques, les savoir-faire, les fameuses hard skills, qui, elles, sont des compétences qui souffrent d'une obsolescence extrêmement accélérée. Dans les années 70, c'est pas moi qui le dis, c'est le CDE, une compétence technique, elle avait une durée dite 20 ans. Donc, on allait à l'école, on se formait, éventuellement, on se reformait à mi-parcours, et les carrières étaient relativement linéaires. Ça, c'est fini.
C'est le monde d'hier.
Ça, c'est le monde d'hier. Dans le monde d'aujourd'hui, une compétence technique a une durée de vie entre 12 et 18 mois et aura en 2025 une durée de vie d'un an. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part qu'il faut se former en permanence. Toute sa vie, il faut acquérir de nouvelles compétences techniques pour remplacer celles qui sont obsolètes. Et d'autre part, ça veut dire que, et ça c'est la très bonne nouvelle, les fameuses compétences de savoir-être, les soft skills, elles se bonifient avec le temps. Elles ne sont pas obsolètes. Donc du coup, c'est vraiment ça qui va permettre de s'adapter pour être dans ce monde toujours avec plus d'IA et toujours nécessitant plus d'agilité. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est que ces compétences de savoir-être, elles sont aujourd'hui extrêmement prises en compte dans les entreprises. On a fait un livre blanc avec l'Observatoire des métiers du futur, avec une enquête quantitative. On s'est rendu compte notamment qu'elles sont prises en compte dans 97% des cas pour un recrutement. Donc c'est aussi vraiment la clé de l'employabilité.
Et quelles sont les trois compétences clés de savoir-être qui reviennent dans l'étude que vous citez?
La première, c'est apprendre à apprendre, de très 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 loin. S'il n'y en a qu'une à retenir, c'est vraiment celle-là. La deuxième, c'est l'agilité. Et quand je parle d'agilité, quand on parle d'agilité, c'est aussi beaucoup l'agilité du réseau. Le fait d'être capable d'aller se construire dans différents écosystèmes du réseau, des réseaux divers et complémentaires. Et la troisième, ça dépend un peu du secteur, je dirais la capacité à travailler en équipe, en mode hybride en fait. Justement, ça revient à la question que vous posiez tout à l'heure sur comment on fait vivre une équipe avec des gens en télétravail, des gens là, des gens pas là. Celle-là, elle est assez utile en ce moment.
Oui, et puis elle le sera sans doute de plus en plus.
C'est possible.
L'un des enjeux essentiels des années à venir, au-delà de ceux que vous venez de citer, c'est aussi l'articulation entre l'écologie et le social. C'est quoi le travail de demain qui peut et qui doit associer productivité et préservation de la planète?
Alors, moi je crois beaucoup au triptyque People, Profit, Planète. Dans cet ordre-là, en fait, hein, donc effectivement, ce qui est important pour l'entreprise, au-delà du profit qu'elle fait, c'est d'une part d'intégrer toute sa partie prenante, donc c'est les collaborateurs, c'est les clients, c'est les fournisseurs, et d'avoir un respect de l'environnement. Moi, je suis plus croissance durable que décroissance, mais en tout cas d'avoir des logiques qui soient effectivement décarbonées d'une part et avec une logique qui soit vertueuse pour l'environnement. On peut tout à fait imaginer des métiers en lien avec ça, des métiers de green tech, de green IT.
Ou des nouveaux métiers justement.
Complètement des nouveaux métiers. Le métier d'ingénieur en sobriété énergétique par exemple, que j'ai documenté dans un de mes podcasts, ou de se dire que voilà, on met des devices sur les flottes automobiles qui permettent de réduire la consommation de carburant, on fournit des services qui permettent de passer à des flottes de plus en plus électriques, et les boîtes qui font ça, elles arrivent à autofinancer le coût de leur prestation par la réduction des émissions de gaz et la diminution de la consommation de carburant. Donc vous avez ça, vous avez aussi des métiers dans le cloud, dans tout ce qui est donc ingénierie de la donnée déportée, où vous vous rendez compte que vous commencez à avoir des green architectes dans le cloud, donc des gens qui codent en faisant en sorte que leur code soit le plus respectueux de l'environnement, et ça leur permet de mieux coder. Donc c'est pas juste un truc utopique, c'est vraiment une source de métier qui va amener de la performance, et le critère de performance n'est pas simplement un critère de performance financière, mais aussi de performance énergétique ou de sobriété énergétique, pour être plus précise.
L'autre sujet un peu brûlant, si je puis dire, c'est celui de la parité. On a voté récemment une nouvelle loi qui impose aux entreprises de renforcer la part des femmes dans les COMEX. Et Françoise Giroud disait en 1983 que la femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où à un poste important, on désignera une femme incompétente. En tant que recruteuse, qu'experte des ressources humaines, quel est votre constat sur ce sujet?
Alors j'adore cette citation de Françoise Giroud, je l'ai mise dans le livre aussi, elle me tient beaucoup à cœur. Le constat, c'est qu'effectivement, aujourd'hui dans la tech, on plafonne péniblement à 30% de femmes. On plafonne à 30% de femmes depuis 2013, donc quoi qu'on fasse, ça bouge très 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 lentement. Et je rappelle que c'est le premier secteur qui recrute en France. Et vous avez des métiers qui sont encore plus pauvres en femmes. Hein. C'est 25% sur les data scientists de part des femmes. Et sur tout ce qui est cybersécurité, on est à peine à 10%. Donc il y a un énorme déficit, qu'il y ait d'une part un problème d'orientation dès le départ, c'est-à-dire que les femmes ne se projettent pas forcément dans ce type de métier, ne s'orientent pas vers les études qui permettent d'effectuer ce type de métier. Et surtout qu'il y ait aussi au fait que plus de la moitié abandonne à mi-carrière. Donc il n'y en a pas beaucoup au départ de la carrière, et il y en a la moitié qui arrête en cours de route. Donc effectivement, en tant que recruteuse, moi je suis signataire de la charte de la diversité, je fais vraiment l'effort d'avoir des shortlists. Alors elles ne sont pas toujours à parité, mais il y a toujours une femme dedans. Il y a aussi toujours un profil de plus de 50 ans, parce qu'il y a aussi un deuxième sujet dont on parle très 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 peu, qui est le sujet de l'inclusion générationnelle. Mmh. Hein. Dans les métiers de la tech, la moyenne d'âge, l'âge médian dans une boîte tech, c'est 31 ans.
Quand on voit la démographie qui arrive, sujet va être crucial.
Il est crucial parce que l'âge médian dans une boîte normale, c'est 41 ans dans la population active. Et dans notre pays, l'ensemble des gens qui vivent en France, 57% ont plus de 50 ans. Mmh. Donc ça pose quand même un vrai sujet s'il y a aussi du jeunisme. Donc c'est effectivement ces deux sujets d'inclusion des femmes et d'inclusion des générations, moi, me tiennent très à cœur. J'ai imaginé deux métiers autour de ça. Il y a le reverse mentor, ou le mentor doublement inversé, sur la partie...
On revient au point de départ, alors.
Non, justement, on ne revient pas au point de départ. On crée du compagnonnage générationnel qui bénéficie aux deux. Et tout ce qui est parcours justement lié à l'inclusion numérique et les conseillers et conseillères d'orientation numérique. Il y a des boîtes qui font ça très bien. Hein. Je veux citer Caroline Ramad de 15T. Je veux citer Emmanuel Larocque de Social Builder, qui a formé plus de 55 000 femmes au métier de la tech, donc qui aujourd'hui à l'échelle font justement ces travaux d'inclusion pour amener les femmes, et notamment des femmes qui sont éloignées de l'emploi, vers des métiers en tension en les reformant.
Alors, vous rapportez dans votre livre de très nombreux entretiens, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est vrai, que vous avez eu avec des entrepreneurs, des scientifiques, des femmes et des hommes d'entreprise. Alors, une mention particulière pour l'armée. Vous racontez que pour gérer ses effectifs militaires et civils, l'armée développe des outils RH innovants, voire très innovants, novateurs et à plus d'un titre. Est-ce que la gestion des RH de demain doit s'inspirer de ce qui se fait déjà dans l'armée ?
En tout cas, moi, je m'en suis inspirée. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert... Je ne dirais pas par hasard, mais en tout cas, j'ai découvert en fréquentant le monde des armées, puisque j'ai le privilège d'être réserviste citoyenne au sein de la DRH de l'armée de terre et également d'avoir été auditrice civile à l'école de guerre, que l'armée est la seule organisation qui fait évoluer et changer de métier les gens à l'échelle de manière processée. Vous êtes sous-officier ou militaire du rang, vous changerez de métier pendant toute votre carrière tous les 2 ans. Vous êtes officier, vous changerez de métier dans votre carrière tous les 3 ans. Il n'y a aucun autre endroit où ça existe. Donc effectivement, c'est pour ça que j'ai pris la peine d'aller documenter ces exemples-là. Je pense qu'on peut s'en inspirer. Après, il y a un petit bémol, c'est que c'est plus facile d'aller mettre de l'IA et des solutions de systèmes d'information RH sur des carrières militaires qui sont des carrières extrêmement vertébrées, on saute pas de grade quand on est militaire, que sur des parcours qui sont parfois moins vertébrés dans le monde de l'entreprise, on change d'entreprise et ainsi de suite. Néanmoins, vous avez des solutions qui existent de mapping de compétences, cette cartographie de compétences qui peuvent tout à fait répondre à ces besoins-là. Moi, je suis convaincue qu'un métier, c'est jamais qu'un portefeuille de compétences. Et donc, si on analyse où sont les métiers qui sont en décroissance dans l'entreprise, où sont les métiers qui sont en croissance, qui est concerné, est-ce qu'on peut faire passer d'un point A à un point B des gens en leur faisant acquérir les compétences qui manquent, on peut éviter pas mal de choses. Et on peut le faire au sein d'une même entreprise ou entre entreprises. Hein, c'est les dispositifs passerelles de Madame la ministre Elisabeth Borne.
Une dernière question avant qu'on rende l'antenne. Il y a l'adage populaire qui dit que le travail c'est la santé. Est-ce que le télétravail c'est la santé ?
Elle est vache.
Vous avez 2 heures.
elle est vache celle-là. Je pense que ça peut être source d'équilibre pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens qui souhaitent une part de télétravail. C'est la santé s'il y a un droit à la déconnexion, et c'est la santé si c'est un télétravail qui est choisi et non pas subi. J'ai vu des profils 100% en télétravail de manière subie, en mode ils ont décidé sur un autre continent qu'on devait tous bosser à distance, qui au bout de 6 mois, 1 an, étaient en grande souffrance, en grande rupture de contact. Et puis quand on vit parfois dans des appartements, je ne vais pas faire du parisianisme, mais en tout cas dans des appartements, dans des grandes villes, dans des toutes petites surface et qu'on est au début de sa carrière, parfois on a envie de venir au bureau. Donc le télétravail, s'il y a un droit à la déconnexion et si la dose de télétravail, elle est raisonnablement et responsablement choisie entre l'entreprise et le collaborateur, moi je crois beaucoup à l'adaptabilité. Donc effectivement, dire c'est 2 jours et pas un de plus, il y a peut-être des gens qui ont envie de faire 3 jours, ça s'adapte.
Okay. Vive le bureau, conclusion.
Non, pas forcément. Mais vive le dialogue et le fait de trouver le bon dosage sans forcément avoir des raisonnements à l'échelle. Le 100% télétravail, à mon avis, est pas très bon pour la santé. Mmh. Et le 100%
physique.
Bureau, physique, tout
et,
à fait.
Et mental.
Et mental. Mmh. Et le 100% bureau, je pense que les gens n'y reviendront pas.
Mmh. Merci beaucoup, Isabelle Rouen. Nous sommes au terme de cette émission et merci d'avoir accepté cette émission, ce témoignage dans Complètement à l'Ouest. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Emploi 4.0, quel métier pour réussir la transformation technologique, pour l'interrogation, paru il y a quelques mois aux éditions Atland. Merci Johanna, ainsi qu'à toute l'équipe qui a œuvré à la préparation de cette émission. Alors en attendant, cette émission peut être réécoutée en podcast, en balado-diffusion, sur le site Radio Imo bien sûr, ainsi que sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, bref, toutes les principales plateformes de balado-diffusion. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour une nouvelle émission au cours de laquelle nous parlerons de musique avec une personnalité exceptionnelle, une grande chef, CHE2FE d'orchestre, mais d'ici là, cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Mais il est complètement fou ce mec!
Alors promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.